Radio Prague, les informations.
26 sénateurs appellent à un débat au Sénat sur l'amnistie du Nouvel An. Dernier voyage officiel du président Klaus en Slovaquie avant la fin de son mandat. Et puis 3 ressortissants néerlandais ont été arrêtés avec 31 kilos de cocaïne à l'aéroport de Prague. Un groupe de 26 sénateurs a signé une proposition appelant à la tenue d'un débat au Sénat sur la question de savoir si le président Klaus doit être ou non poursuivi pour haute trahison en raison de l'amnistie controversée qu'il a déclarée dans son discours de Nouvel An. La proposition de plainte constitutionnelle contre le président a été initiée par les sénateurs Eliška Wagnerová et Miroslav Antl qui estiment que le président a outrepassé ses pouvoirs en déclarant une amnistie qui, entre autres, arrête les procédures vieilles de plus de 8 ans. Nombre des cas concernés sont liés à des affaires de corruption. Il manque une signature à la proposition afin de pouvoir ouvrir le débat dans la chambre haute du Parlement. 73 000 personnes ont par ailleurs signé la proposition de plainte constitutionnelle. La scission de la Tchécoslovaquie a été avantageuse pour les deux États, peut-être même plus pour la Slovaquie. C'est en substance ce qu'a déclaré ce mardi le président sortant Václav Klaus au cours de son dernier voyage officiel en Slovaquie voisine avant la fin de son mandat. Alors que ce dernier s'achève le 26 mars prochain, le chef de l'État tchèque a qualifié les liens entre la République tchèque et la Slovaquie de relations d'amitié. Il s'est également félicité de l'amélioration des relations entre les deux peuples après la séparation du pays né en 1918. Une appréciation confirmée par son homologue slovaque Ivan Gašparovič. Le ministère des Transports envisage de supprimer les tarifs subventionnés aux étudiants dans les transports en commun. Jusqu'à présent, les prix pour les étudiants et les écoliers sont minorés d'un quart, une différence dont s'acquitte le ministère. Celui-ci considère qu'il devrait être désormais du ressort des entreprises de transport de proposer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de population. Selon le quotidien Mladá Frontanes, lequel rapporte cette information, la mesure pourrait être effective dès le milieu de cette année et permettrait au ministère d'économiser environ 8 millions d'euros par an. La police a interpellé 3 ressortissants néerlandais arrêtés avec 31 kilos de cocaïne à l'aéroport Václav Havel à Prague ce mardi matin. Ce sont les officiers des douanes qui ont découvert la drogue dans leur bagage. Le groupe, 2 hommes et une femme arrivés de République dominicaine. Pour l'heure, les forces de l'ordre n'ont pas pu déterminer si la cocaïne était destinée au marché tchèque ou si elle devait être redirigée vers une autre destination. La valeur de l'ensemble de la drogue découverte équivaut à 60 millions de couronnes au prix du marché de la rue. La cour d'appel de Prague a ordonné à l'artiste tchèque David Tcherny de dédommager l'ancien directeur de la Galerie nationale de Prague, artiste Milan Knijak, à hauteur de 100 000 couronnes pour l'avoir insulté dans le cadre d'un documentaire de la télévision tchèque. La télévision publique tchèque a elle aussi été condamnée à lui payer la même somme pour avoir diffusé le programme. Tant David Tcherny que la chaîne de télévision s'étaient déjà excusés pour l'incident. Les relations entre les deux artistes sont tendues depuis de nombreuses années. Et puis la 7e édition du festival Méné Tekel s'est ouverte lundi avec le vernissage de plusieurs expositions. Cette nouvelle édition s'intéresse plus particulièrement au destin des prisonniers politiques des années 50 et entend mettre en garde l'opinion publique contre le totalitarisme. On termine par un mot de météo. Mercredi, jour de la fête des lacs Alexandre. Le ciel sera couvert sur une majeure partie du pays, sauf sur les façades nord-ouest et sud-est qui pourraient profiter de quelques éclaircies. Les températures oscilleront entre 1 et 7 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, c'est la suite du programme présenté par Pierre Maignan. Restez avec nous.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité. Merci à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce mardi, du cinéma avec le Festival international du film documentaire Jeden Svět qui débute dans 2 semaines et interroge la société tchèque sur la notion de tolérance. En deuxième partie de l'émission, nous parlerons relations internationales dans le cadre de notre projet tchécoslovaque entre des radios francophones des deux pays. Lucie Drechselová a interrogé des politologues slovaques et tchèques à propos de la partition de l'État commun tchécoslovaque disparu il y a tout juste 20 ans. Mais tout d'abord, on commence avec de la politique et Guillaume Narguet qui s'intéresse à la tournée des régions du Premier ministre Petr Nečas à la reconquête du cœur des membres de son parti ODS. Le Premier ministre Petro Nečas a entamé ces derniers jours une tournée qui, durant 5 semaines, doit le mener dans les antennes régionales du Parti civique démocrate, ODS. Confronté à des résultats catastrophiques lors des dernières élections, que celles-ci soient sénatoriales, régionales ou présidentielles, à de très faibles préférences, à une réputation sulfureuse auprès de l'opinion publique ou encore à l'adoption par le gouvernement de réformes souvent très impopulaires. L'ODS, principale formation de droit du pays, est espère retrouver un second souffle avant une année 2014 qui sera marquée de nouveau par la tenue de nombreuses élections, dont les législatives. Mais devant l'ampleur du chantier, beaucoup, et ce au sein même du parti, doutent de la réussite de l'entreprise. Guillaume Narguet.
Même si les sondages sont toujours à prendre avec des pincettes, les résultats publiés la semaine dernière par l'agence STEM ont néanmoins interpellé un certain nombre d'observateurs de la scène politique tchèque. Avec seulement 11,6% de préférence, l'ODS, premier parti de l'actuelle coalition gouvernementale, arriverait loin derrière la social-démocratie et dans une moindre mesure top 0,9 si les élections législatives devaient se tenir aujourd'hui. Avec plus de 28% des suffrages, la social-démocratie remporterait haut la main le scrutin, mais surtout l'ODS, qui ne devancerait les communistes que de 3 petits dixièmes de point, perdrait la position qui est la sienne depuis pratiquement une vingtaine d'années de plus grand parti de droite aux dépens de Top 09, son actuel partenaire au sein du gouvernement, qui récolterait lui un peu plus de 14% des suffrages. Malgré leur faiblesse, ces chiffres ne sont cependant pas ceux qui inquiètent encore le plus certains responsables de l'ODS. De plus en plus de voix s'élèvent en effet pour appeler à un retour aux valeurs conservatrices qui leur sont chères et dont elles estiment qu'elles ont été abandonnées ces 3 dernières années, notamment lors des compromis trop nombreux à leur goût consentis au sein de la coalition gouvernementale. Car même si d'importantes réformes ont été adoptées et ont commencé à être appliquées, le Premier ministre a souvent bien du mal à justifier certaines décisions, y compris donc dans les rangs de l'ODS. Ce mécontentement grandissant provient notamment des régions et des communes, et c'est la raison pour laquelle Petra Nečas s'est rendu à Pardubice, en Bohême de l'Est, lundi, après avoir visité Nymburk, en Bohême centrale, et Plzeň, en Bohême de l'Ouest, la semaine dernière. En province, même s'il ne l'admet pas ouvertement, le chef du gouvernement entend se montrer plus à l'écoute qu'il ne l'a été afin de revenir à certains principes de base.
Il est indispensable que nous communiquions entre nous et que nous échangions nos opinions et que nous nous disions les choses ouvertement. 4 élections nous attendent dans l'année à venir et il faut que l'ODS s'y prépare du mieux possible. Mais je ne sais pas pourquoi les médias en parlent tant alors que ce n'est pas la première fois que je me rends dans les régions.
Alors que la cause, à l'échelle nationale, semble d'ores et déjà entendue en faveur de la social-démocratie en perspective des prochaines législatives, les communes et les régions sont peut-être devenues les éléments les plus importants pour le proche avenir de l'ODS. D'éventuels mauvais résultats, aussi lors des élections municipales en 2014, fragiliseraient encore un peu plus le parti qui tremble littéralement sur ses fondations. Mais comme l'affirme Drahomira Miklošová, maire ODS d'Obranice, une petite commune de Bohême du Nord, certains changements dans le mode de fonctionnement sont déjà en cours.
On nous laisse nous exprimer sur les projets législatifs. C'est quelque chose de relativement nouveau, car jusqu'à présent, les maires n'étaient pas du tout écoutés. Je dirais même que je considère cela comme l'apparition d'un nouveau souffle au niveau de la direction de l'ODS.
Pour certains, ce nouveau souffle pourrait aussi prendre la forme d'une nouvelle direction à la tête du parti. Même s'il ne s'agit encore que de bruit de couloir, Petra Nečas pourrait continuer à remplir les fonctions de Premier ministre jusqu'au printemps 2014, tout en étant remplacé par un autre leader qui deviendrait, lui, la tête d'affiche de l'ODS pour la campagne électorale des législatives, histoire de sauver ce qui peut-être encore l'être.
Pour la 15e année consécutive, le festival Jedensfjet ou One World proposera du 4 au 13 mars une riche programmation en films documentaires sur la thématique des droits de l'homme. Cette édition, qui se déroule à Prague mais aussi dans de nombreuses autres villes de République tchèque, souhaite ouvrir le débat sur l'intolérance, le racisme et les discriminations.
Bojíte se snášet?
Craignez-vous de vous tolérer les uns les autres ? C'est le slogan volontairement provocateur de cette nouvelle édition du festival Jedenswiet, un événement né il y a 15 ans sur une initiative de l'ONG Człowiek w tísni et devenu une rencontre majeure du film documentaire en République tchèque. C'est donc de tolérance que les organisateurs veulent nous parler, de notre capacité à vivre ensemble et à nous accepter tels que nous sommes. Directrice du festival, Hanna Kurankova, évoque la jeunesse de cette idée.
Quand l'an passé, nous avons commencé à réfléchir à quoi pourrait ressembler cette édition du festival Jedenswiet, nous avons été inspirés par ce qu'il se passait en Bohême du Nord avec toutes ces manifestations qui étaient principalement dirigées contre la minorité rome. Malheureusement, ces opinions marquées par l'intolérance se sont, selon nous, également exprimées à travers certains candidats et candidates à la présidentielle. Cela a confirmé notre choix de traiter du thème de la tolérance et de l'intolérance. Car finalement, nous avons voulu, avec cette édition de Jedenswiet, lutter contre une ambiance, contre les préjugés entendus partout et tout le temps sur le type « je ne suis pas raciste, mais » et qui peuvent parfois conduire au meurtre haineux.
Ces paroles sont illustrées par l'un des documentaires projetés justement dans la catégorie « Boites et Snachet », l'une des 14 thématiques du festival. Il s'agit d'une œuvre norvégienne intitulée « Til Ungdomem, Braveheart » à propos de jeunes désireux de s'approprier la chose politique. Le film prend une tournure dramatique puisque l'un de ces jeunes participe au camp d'été du parti travailliste sur l'île d'Utøya quand le terroriste d'extrême droite Anders Breivik commet son massacre. Le festival montre ainsi une réalité parfois très difficile à accepter. Le film Saving Face, récompensé par l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire, suit par exemple les traces d'un chirurgien, au Pakistan qui tente de reconstruire les visages et parfois les vies de femmes victimes d'attaques à l'acide sulfurique. Cependant, certains des films proposés sont porteurs d'espoir et de joie, à l'image du film Les Invisibles du réalisateur français Sébastien Lipschitz. On écoute Anna Kulankova.
En fait, cette catégorie thématique principale, craignez-vous de vous tolérer les uns les autres, est un appel, une question. Donc nous y avons inclus également des films très positifs.
Éclairer sur des situations politiques et humanitaires parfois méconnues des publics européens est également l'un des objectifs poursuivis. Aussi, le festival a souhaité braquer son projecteur sur un pays en particulier. La directrice de la communication de l'événement, Bohudana Hrabouskova, nous en dit plus.
Cette année, le festival propose ici à Prague 102 films documentaires produits par un total de 30 pays. Quand nous avons élaboré le programme que nous vous présentons aujourd'hui, un thème important nous est apparu aux côtés de celui de la tolérance. Il s'agit de l'Azerbaïdjan.
Des films et débats sont ainsi proposés autour de ce pays du Caucase où de nombreux droits élémentaires tels que ceux de manifester ou d'informer sont loin d'être respectés. Un avocat qui milite pour les droits de l'homme en Azerbaïdjan interviendra dans le cadre du festival pour en évoquer la situation politique et se verra remettre le prix Homo Homini. Jedenswiet propose également une série d'œuvres récentes tchèques présentes dans près de 40 villes du pays avec une approche pédagogique pour les écoles. Le festival est militant et souhaite avant tout interroger la société tchèque. À cet égard, Hanna Kulankova nous détaille sa campagne de communication.
Sur notre affiche, il y a des animaux qui pour nous symbolisent la société tchèque. Les poules sont des poules tchèques classiques et cette basse-cour tchèque est méfiante à l'égard de l'autruche qui, dans l'espace tchèque, n'est pourtant plus si exotique puisqu'elle se retrouve dans les fermes tchèques depuis de nombreuses années. Selon nous, cela évoque d'une certaine façon comment la société tchèque accepte ou repousse la différence.
Pour plus de détails sur toutes les actions organisées dans le cadre du festival Jedenswiet, rendez-vous à l'adresse internet www.jedenswiet.cz. 20 ans après la dissolution de la Tchécoslovaquie, les deux nouveaux États semblent avoir adopté des attitudes opposées vis-à-vis de l'Union européenne. Si la Slovaquie a adopté l'euro et participe à toutes les grandes initiatives européennes, la République tchèque est bien plus connue pour son euroscepticisme et se montre réticente quant à l'approfondissement de l'intégration. Un regard sur le bilan de la dissolution de la Tchécoslovaquie permet de mettre en perspective les positions européennes des deux pays. Un reportage signé Lucie Drexelova.
Panorama.
Panorama.
Vu les différences dans les politiques européennes en République tchèque et en Slovaquie, il est légitime de s'interroger sur les facteurs qui ont influencé cette évolution divergente. On peut rappeler le fameux titre du journal Respect qui, au moment de la dissolution, invitait la République tchèque à aller toute seule en Europe ou de concert avec la Slovaquie vers les Balkans. De ce point de vue, il y a une sorte de renversement des rôles des deux États. Initialement, la République tchèque affirmait son objectif européen et vantait ses chances d'entrer dans l'Union européenne avant tous les autres. Aujourd'hui, elle est davantage un outsider, tandis que la Slovaquie s'y intègre pleinement. Commençons par constater qu'il y a bien des différences dans les politiques étrangères des deux pays. David Cadier, spécialiste de l'Europe centrale et orientale à la London School of Economics, remarque que la République tchèque est plus atlantiste et plus pro-israélienne, tandis que la Slovaquie est souvent moins critique envers la Russie, comme on a pu le voir pendant la crise géorgienne. Mais la différence la plus prégnante reste l'attitude envers l'Union européenne. David Cadier.
Il existe des différences dans les choix de politique étrangère de la République tchèque et de la Slovaquie. Pas des différences majeures, mais en tout cas des différences qui méritent qu'on s'y attarde. La première et la plus évidente est évidemment la relation à l'Union européenne. La Slovaquie a adopté l'euro alors que le gouvernement tchèque refuse ne serait-ce que de fixer un calendrier pour adopter l'euro. Plus récemment, la République tchèque a refusé de signer le pacte budgétaire européen. Elle est le seul pays avec la Grande-Bretagne à avoir refusé de prendre part à ce mécanisme européen.
Pour Grigory Mesesnikov, directeur de l'Institut pour des questions publiques de Bratislava, l'orientation pro-européenne de la Slovaquie se matérialise surtout dans l'adoption de l'euro qui a été décidée avant même l'entrée slovaque dans l'Union européenne.
Pour la Slovaquie, l'entrée dans la zone euro était très importante du point de vue de l'amélioration des conditions de développement de l'économie nationale. Elle signifiait une mise en place d'une politique fiscale plus responsable et de réformes. Ainsi, l'adoption de l'euro était stratégique, d'autant plus que cette décision a été prise avant que la Slovaquie n'entre dans l'Union européenne. Il a été décidé qu'au moment de l'adhésion pleine et entière, la Slovaquie entrerait dans l'espace Schengen et adopterait la monnaie commune. Les attitudes européennes de la Slovaquie sont présentées de manière plus cohérente que celles de la République tchèque. Ceci est dû notamment au fait que tous les partis politiques slovaques classiques sont d'accord sur la nécessité d'une solution solidaire à la crise de l'euro.
Que peut nous dire le divorce tchécoslovaque sur les attitudes européennes de la Slovaquie? Milan Šimečka du journal Respect souligne que c'est surtout l'expérience de l'autoritarisme du nouvel État slovaque après la division du pays qui a ensuite favorisé une volonté forte d'intégration à l'Union européenne. La Slovaquie a été critiquée pour la dérive autoritaire du gouvernement Mečiar par l'Union européenne qui a considéré en 1997 que le pays ne remplissait pas les critères de Copenhague nécessaires à une candidature à l'entrée dans l'Union européenne. Ainsi, il a été exclu du premier rang des candidats, tandis que tous ses voisins en faisaient partie. La prise de conscience de cette marginalisation internationale a favorisé la victoire électorale de l'opposition en 1998 et a permis d'entamer un processus de démocratisation. Milan Šimečka met l'évolution des années 90 en perspective avec l'européisme slovaque d'aujourd'hui.
La différence principale dans la perception de la dissolution par les deux nations était dans l'importance que les Slovaques accordaient à la création de leur nouvel État. S'ils se sentaient comme des frères mineurs au sein de la Tchécoslovaquie, ils pouvaient désormais bâtir leur propre État pour la première fois dans leur histoire. Cette expérience a été dramatique, notamment au niveau psychologique. Les Slovaques ont compris que le monde n'était pas un lieu accueillant et qu'ils n'arrivaient pas à mettre de l'ordre dans leur nouvel État. Les premières années ont surtout été caractérisées par un glissement vers l'autoritarisme qui a conduit à ce que la communauté internationale pointe du doigt la Slovaquie. Cette transition dramatique a permis aux Slovaques de comprendre leur position, de même que le fait que leur acceptation par la communauté internationale et par l'Union européenne était subordonnée aux changements profonds qu'ils avaient à lancer. Au bout de 6 ans, Mečiar a perdu les élections et les nouveaux hommes politiques ont dû recommencer à zéro. C'est à ce moment-là que la Slovaquie a pris le chemin de l'intégration européenne. Tout cela, ce sont des expériences qui ont poussé les Slovaques à réfléchir sur leur nouvel État et sur leur sort en général.
Grigory Mesesnikov de l'Institut pour des questions publiques de Bratislava rejoint l'analyse de Milan Šimečka et ajoute qu'au niveau de la société, le sentiment d'appartenance à l'Europe est partagé en République tchèque comme en Slovaquie.
La question de l'attitude envers l'Union européenne, à mon sens, divise surtout les représentants politiques des deux pays. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence dans le sentiment d'appartenance à l'Europe parmi la population. En Slovaquie, la différence vient du fait que l'Union européenne a joué un rôle crucial dans le développement politique interne. Le refus de l'Union européenne de lancer les négociations avec la Slovaquie non démocratique a fait d'elle un garant important de la stabilité démocratique et économique du pays.
L'européisme slovaque serait donc le résultat de la période de transition démocratique qui a fait comprendre à l'opinion publique comme aux élites politiques slovaques l'importance de l'Union européenne en tant que garante de la stabilité du pays. Dès lors, la Slovaquie s'est pleinement engagée dans les structures de l'Union et a participé à tous les projets visant à l'approfondissement de l'intégration. Le sort de la République tchèque, surprenant pour certains, fera l'objet d'une prochaine rubrique Panorama.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.